La joie et le soulagement des écoliers à La Havane. Ils ont pu retourner en classe, mais en respectant un protocole sanitaire strict. Port du masque obligatoire et désinfection des mains et des semelles des chaussures avant de pénétrer dans les salles. Avec 129 décès et un peu moins de 7000 contaminations depuis mars dernier, donc 90% de rémission, Cuba affiche un bilan très bas par rapport à ses voisins latino-américains. 9h et presque 10 minutes à Paris. On retrouve tout de suite Juan Gomez pour Appel sur l'actualité.
Avec les auditeurs de RFI, évidemment, pour commenter l'actualité. Merci Charlotte de Rouen, 8h10 en temps universel.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
tragique, j'aurais choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, une espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui d'entendre des extraits d'un livre de Franck Bouys paru en 2019 aux éditions La Manufacture de Livres. Ce dernier a écrit une vingtaine de romans, dont certains, tels Grossir le ciel, ont obtenu des prix littéraires. Le prix Polar SNCF 2017. Né d'aucune femme est un roman noir rural qui semble situé au 19e siècle. Rose, une fille vendue par son père à un notable du village, écrit sur des carnets les épreuves traversées.
Tout est calme. Il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court. Le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenue. Et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a plus appelée Rose. Quand je suis seule, que tout le monde dort, des fois, je répète mon prénom à voix haute, mais pas trop fort, juste pour m'entendre de plus en plus vite. Au bout d'un moment, il n'y a plus de début ni de fin, alors je m'arrête et ça continue dans ma tête comme si j'avais démarré une machine du diable. Si on m'entendait, j'aurais sûrement droit à un traitement spécial et tout serait fichu par terre. Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire. J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment, j'en ai tellement rêvé, je me suis préparée tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées, en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et voilà que le grand soir est arrivé, celui où j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Sûrement que personne ne me lira jamais, c'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que pour une fois, j'aille au bout de quelque chose sans qu'on m'en empêche. Je reculerai pas. Pour que ce soit possible, il a fallu que je croise Jenny, une bonne âme. Je parlerai d'elle plus tard. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirai en premier, par quel bout démarrer. Évidemment, pas le vrai début de ma vie, un autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais un monde pour un autre sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était quatre filles, nées à un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme. Vu qu'il faut des bras, et entre les jambes, de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles, c'est la ruine d'une maison, je l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous quatre pour le dire, bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien, qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là. Au moins, on s'entendait bien, mes sœurs et moi. On se serrait les coudes sans rechigner au travail. Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça suffisait pas, que ça suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça changeait rien. Alors on se débrouillait à trouver des moments pour s'amuser entre nous, en cachette. On riait souvent. On n'était rien que des gamines, sans le souci du demain. Ma mère, je ne l'ai jamais vue rire. Pas vraiment sourire non plus. Mon père, une seule fois, le lendemain de mes 14 ans, à la foire de L. Il avait tenu à ce que je l'accompagne, mais ce n'était pas une mimique qui mène à la joie, pour sûr. Plutôt une grimace. Oui, un drôle de sourire qu'il avait ce jour-là, pendant qu'il éclusait des verres dans l'auberge avec ce type qui les payait et lui jamais. Avec le recul des années, je sais que c'était pas un vrai sourire ni une vraie grimace, mais sa façon à lui de se convaincre qu'il lui fallait devenir quelqu'un d'autre pour aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Ils étaient assis à une table au milieu de la salle pleine de clients. Moi, je me tenais debout à l'entrée, là où on m'avait dit de rester, à les regarder discuter, sans pouvoir entendre ce qu'ils disaient. Le type, il buvait moins que mon père, et de temps en temps, il me jetait un coup d'œil qui me froidissait comme un vent d'hiver. Il était gros et large, visiblement un peu plus jeune que mon père, avec des habits pas comme nous autres. Pas coupé pareil et pas fait du même tissu, de ceux qui coûtent autrement cher. Je me suis demandé comment mon père pouvait connaître quelqu'un comme ça. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais bien que la conversation prenait une drôle de tournure. Le visage de mon père se refermait de partout et il a fini par devenir aussi grave que celui du type. J'ai compris plus tard qu'ils étaient en train de marchander et que c'était pas simple d'arriver à un accord vu que personne voulait lâcher le morceau. Je le savais pas encore, mais le morceau en question, c'était moi. Le gros type s'est énervé. Il a voulu se lever pour partir, mais mon père l'a attrapé par le bras, même que ça n'a pas eu l'air de lui plaire, et mon père l'a relâché tout de suite. Le type s'est quand même rassis. Mon père a hoché la tête, ils ont topé, et une bourse a changé de main en douce et aussi un baluchon dans l'autre sens. Le type avait l'air pressé d'en finir. Il a attrapé le baluchon avec dégoût et mon père a fourré la bourse dans sa veste. J'ai pas eu l'impression qu'elle était bien garnie. Mon père m'a regardé d'un air sévère. Je savais pas bien s'il m'en voulait d'une chose ou s'il voulait s'excuser d'une autre. Je comprenais pas ce qu'il y avait dans ce foutu regard que je lui connaissais pas plus que le sourire d'avant. Aujourd'hui, je le sais. Et puis, il a baissé les yeux. Le type s'est approché de moi en me tendant le baluchon. Son gros ventre, gonflé comme celui d'une vache prête à véler, débordait de son pantalon. D'une voix pas aimable, il m'a dit à l'oreille de le suivre, qu'il avait quelque chose à me montrer, que mon père et lui venaient de s'entendre là-dessus. J'ai voulu demander sur quoi ils avaient bien pu s'entendre, en quoi ça me concernait. Il m'a pas répondu. J'ai regardé mon père, qui a fait un mouvement de la tête pour dire d'obéir, et il s'est jeté un grand verre de vin dans la bouche, puis il s'est resservi aussi sec. Il m'a plus regardé. Alors j'ai suivi le type en me retournant souvent, parce qu'on m'avait toujours appris à obéir aux hommes sans discuter. Personne ne se souciait de nous. C'est une fois qu'on est arrivé devant une carriole bâchée, attelée à un beau cheval noir tout luisant, qu'il m'a expliqué qu'on allait chez lui, qu'il avait du travail pour moi. Quand il me parlait, j'avais l'impression qu'on lui retirait des échardes piquées dans sa bouche. J'ai pris peur, je ne comprenais pas pourquoi mon père m'avait rien dit. Je voulais pas suivre l'inconnu, je savais même pas encore qu'il venait de m'acheter. « Faut que j'aille dire au revoir à papa !» j'ai dit, les yeux gonflés de larmes. J'ai commencé à repartir, mais le type m'a de suite agrippé une épaule en me tirant en arrière. « C'est pas une bonne idée !» qu'il a dit d'une voix qui avait rien d'amical. Il m'a poussé contre une roue et soulevé pour me forcer à monter. J'étais pas capable de résister. J'ai escaladé le marchepied et je suis retombée sur le siège. Le type est monté à son tour et j'ai bien cru que l'attelage allait basculer sous son poids. Puis il s'est assis à côté de moi, a passé un bras autour de ma taille et a attrapé les brides. Mon cœur dansait la gigue dans ma poitrine. « Laissez-moi au moins lui dire au revoir, je vous en prie, monsieur. Après, je reviens !» j'ai dit en tremblant. Le type a pas moufeté. Il a fait claquer les brides bien fort sur le dos du cheval et on est parti. J'arrêtais pas de trembler comme une feuille. Je pouvais même pas pleurer. Je pensais qu'à sauter, mais je pouvais pas. « Où on va ?» j'ai demandé. Il m'a pas répondu.
On a quitté le village au trot et je me suis mise à imaginer toutes sortes de choses qui seraient jamais à la hauteur de ce que j'allais endurer. C'était le début du printemps. Il faisait beau. Les routes avaient été défoncées par la neige d'hiver et les pluies qui avaient suivi. Le type décochait toujours pas un mot. Il me regardait juste de temps en temps, un drôle d'air malsain sur sa grosse figure. Et sûr que c'était pas pour voir si j'étais bien installée. Je saurais pas dire le temps que le voyage a duré, mais c'était interminable. Je me suis juste un peu relâchée quand le type a fait ralentir les chevaux dans un passage difficile. J'ai senti l'odeur des fleurs d'acacia que ma mère cueillait une fois l'an pour nous faire des beignets à mes sœurs et moi, des bons beignets bien gras qu'on adorait. J'ai encore eu envie de pleurer, mais les larmes sont pas venues. Ensuite, on a traversé un pont qui enjambait une rivière, puis on a tourné sur un chemin. Les fossés étaient bien entretenus. On est arrivé devant un portail grand ouvert, accroché à deux piles d'au moins 4 mètres de haut, reliées entre elles par une sorte de grille en fer qui faisait comme deux lignes de cahier entre quoi on pouvait lire « Les forges ». J'ai machinalement baissé la tête en passant dessous pour déboucher sur une allée gravillonnée. On a fait le tour d'un grand massif d'arbustes avec des fleurs de toutes les couleurs et on s'est arrêté devant une sorte de château entouré de plein de bâtiments. Le gros type s'est alors tourné vers moi avec un drôle de sourire. « À partir de maintenant, tu m'appelleras maître et tu obéiras à tout ce qu'on te demande. » Il a dit sur un ton sec. Je savais pas encore ce que représentait ce « on ». Il est descendu le premier et je suis restée assise. « Qu'est-ce que tu attends ?» il m'a demandé. J'ai obéi. Une de mes socques a ripé sur le marchepied et j'ai atterri sur les fesses. « Tu ne m'as pas l'air bien dégourdi. N'oublie pas tes affaires sur le siège. » Je me suis relevée, j'ai attrapé mon baluchon. J'avais les fesses en compote et les jambes qui tremblaient. Quand je me suis retournée, une vieille femme, maigre comme un coucou, se tenait toute droite en haut des marches du château. Elle portait une longue robe noire que le soleil faisait briller à des endroits et ses cheveux gris étaient attachés en chignon retenus par un filet de dentelle noire. Elle me fixait avec un air supérieur et aussi de la curiosité, il m'a semblé. J'ai dit bonjour. Elle a fait un signe de tête au maître. Il a monté les marches. Et moi, je suis restée en bas, vu qu'on ne m'avait rien demandé. Une fois qu'il a été en haut, il m'a regardé, moi, et puis la vieille après, en soupirant comme si j'étais rien. « Ah, il faut décidément tout te dire. Tu attends peut-être le déluge pour revenir. » J'ai obéi. La femme est entrée la première dans la maison, le maître derrière, et puis moi. On est arrivé dans une grande pièce, très haute de plafond, avec des poutres énormes d'un seul tenant. Et au fond, il y avait une cheminée où on aurait pu faire rôtir un bœuf en entier. Une longue table en bois traversait la pièce, assez grande pour y manger au moins 30, sans se serrer les coudes. La vieille a dit que j'étais sous le toit du maître de forge, et que donc, je lui appartenais à partir de maintenant. Elle a regardé le maître, il a balancé sa grosse tête de haut en bas. Elle a ensuite continué en déroulant ce qu'on attendait de moi, que je devais m'occuper de tenir la maison et faire la cuisine, qu'elle ne tolérerait aucun manquement sous peine de sanction, qu'elle y veillerait chaque jour que Dieu ferait. J'ai retenu ses paroles, puis elle m'a demandé mon prénom. Juste pour savoir, elle a dit, vu qu'elle m'appellerait ma petite et que dans sa bouche, ça n'avait rien d'une gentillesse. Si tu as des questions, c'est tout de suite, elle a ajouté. J'ai alors voulu demander si j'étais seule pour m'occuper du château. La vieille s'est mise à glousser. Le château, elle a répété. Celle que tu remplaces se débrouillait très bien sans aide. Ils se sont alors regardés d'un air de s'entendre que j'ai pas aimé. Puis se sont tournés vers moi, comme si c'était la même mécanique qui les faisait bouger. Je vais te montrer ta chambre, a dit la vieille. Le maître a pas bougé. Elle s'est avancée jusqu'au fond de la pièce, a ouvert une porte à droite de la cheminée. Je me suis dépêché de la suivre. On a ensuite monté un escalier, passé deux paliers avant de se retrouver sous les toits. Elle a ouvert une petite porte qui donnait sur une chambre, avec un lit poussé contre un mur, une commode à trois tiroirs, une chaise en paille, et à peine de quoi passer entre tout ça. Et pourtant, on ne peut pas dire que j'ai jamais été bien épaisse. Sur le lit, il y avait une robe noire étalée, un tablier blanc et une coiffe blanche. « Voici ta tenue, elle devrait t'aller », a dit la vieille qui était restée à la porte, une main dans une autre. Elle a jeté un coup d'œil à mon baluchon qui pendait au bout de mon bras, puis elle m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire en coin qui déformait rien d'autre que sa bouche sans lèvres sur sa figure fanée et qui en disait long sur la façon dont elle me considérait. « Je t'attends dans 10 minutes en bas. Cela devrait suffire pour déballer tes affaires et passer ta tenue. Ensuite, il te faudra préparer le repas, » elle a dit, avant de tourner les talons.
Edmond. Il a ramené une gamine hier. Elle s'appelle Rose. Bon Dieu, ça peut pas être le hasard. Rose. Elle est belle comme un jour de soleil. Elle dit qu'elle a 16 ans. Je crois qu'elle ment, même si elle est déjà formée et qu'elle a l'air de savoir s'y prendre dans le travail. Elle a des yeux noirs avec de l'or autour. On peut pas passer à côté de son regard. Je connais ce genre de regard, capable de lire dans les autres regards comme si c'était rien que des livres ouverts avec des mots à lire. Bon Dieu, je connais. Elle sent pas la mousse, elle sent la terre juste retournée. Ça lui va bien. Du moment qu'il ne s'agit pas de l'odeur de la mousse, je sais pas où il l'a trouvée, elle a pas voulu me dire. Ils vont lui mener la vie dure, lui et la reine-mère, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter, je suis bien placée pour le savoir. Ici, le malheur, il est caché partout. J'ai dit à la fille qu'elle ferait mieux de repartir. Je ne crois pas qu'elle m'écoutera sans preuve. Elle a l'air futée, mais en même temps trop fière pour que ça lui serve à quelque chose. Bon Dieu, ça ne me regarde pas. Elle n'est rien pour moi, cette Rose. Faut que j'arrête de m'en faire pour elle. Quand je l'ai laissée, je suis allée dans la forêt. Il n'y a que ça qui m'apaise quand j'ai la tête mal tournée, être seule au milieu des bois. J'ai marché longtemps, et puis je me suis arrêtée et j'ai fermé les yeux. J'ai senti l'odeur de la mousse en premier, et puis l'odeur de la terre l'a recouverte. J'ai alors vite ouvert les yeux en panique. Faut pas que je mélange les odeurs. Bon Dieu, pas tout mélanger. Rose, elle s'appelle. Rose, bon Dieu. Bon Dieu, je la revois toute droite derrière le portail du jardin. Elle avait l'air tout emberlificotée dans de drôles de pensées qui l'amenaient ailleurs qu'où ses pieds étaient posés. J'ai senti un vent chaud rentrer à l'intérieur de moi. Je me suis approchée. Bon Dieu, il a bien fallu que je m'arrête au portail. C'est comme si, en même temps qu'elle était là, quelqu'un d'autre était là aussi. Quelqu'un que je connaissais bien. Quelqu'un qui m'avait jamais quittée et qui me quittera jamais. Quelqu'un capable de voyager aussi avec le vent. Je ne pouvais pas lutter. Je me suis mis à parler. C'était trop pour moi, ces deux présences qui voulaient en faire qu'une seule. Je pensais pas à la petite comme j'aurais dû, bon Dieu. Je pensais à elle comme si elle était une autre. Comme si une autre présence s'était fourrée dans ce corps de fille et que je la regardais pas comme j'aurais dû, pas comme une gamine à éloigner, à sauver. C'était plus fort que moi. Tout ce que je croyais impossible à faire revenir, cette présence qui était jusque-là à l'intérieur de moi, glacée, se trouvait dans cette fille. J'avais l'impression qu'un peu de vie revenait en moi, même si ça me faisait peur, qu'il y ait de l'air frais qui chasse un peu le pourri que je respirais depuis si longtemps. Ça me faisait peur pour moi et pour elle aussi. Parce que je croyais pas des choses qui étaient pas. Je rêvais pas non plus. C'était bien ça le pire. J'ai pas pu me remettre au travail quand elle a été partie. Je suis restée accrochée au portail à me dire qu'il fallait que je me reprenne, que je reste à ma place. Je suis pas sûre d'y arriver. Pas devenir un monstre. Mon Dieu, pas comme eux. Qui pourrait m'en vouloir de fendre ma douleur en deux pour essayer de vivre un peu mieux? C'est comme si cette fille m'avait attrapé la main en même temps qu'elle en tenait une autre et que par le fait, elle prenait un peu de sa douleur à l'autre, un peu de la mienne aussi, et qu'elle les filtrait pour en faire autre chose de moins douloureux, comme on filtrerait une eau croupie sans pour autant espérer qu'elle devienne potable. Juste ça. Cette fille, cette rose-là, qui me mène à l'autre présence et pas le contraire. Elle a réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas admettre avant. Pourtant, je ne la connais pas vraiment, mais je la sais. Bon Dieu, je ne suis pas un monstre.
Rose. J'avais rêvé d'Edmond dans mon sommeil. Vraiment de lui, pas de ses fichus mystères. Tant qu'il était à côté de moi, je savais qu'il pouvait rien m'arriver de grave, que c'était un peu plus que de la protection que je lui avais réclamée tout du long de la nuit. J'avais touché ses épaules, je crois bien, et le portail du jardin était grand ouvert. Dès que je me suis réveillée, j'ai eu qu'une hâte, trouver un moment de libre pour le rejoindre et voir ce que ça me ferait. S'il y avait moyen de prolonger le rêve, de voir s'il y avait du vrai dedans. Le maître était parti à la forge et la vieille était remontée dans sa chambre. C'était le moment ou jamais. J'avais environ 2 heures de libre devant moi. J'ai tout laissé en plan et je suis sortie en espérant que ni l'un ni l'autre changerait ses habitudes. Je me suis dit que je mettrais les bouchées doubles au ménage pour rattraper mon retard. J'ai commencé par aller voir au jardin. Edmond n'y était pas, alors j'ai poussé jusqu'à l'écurie. La porte a été ouverte, j'ai pas hésité. Je suis entrée sans faire de bruit, juste de quelques pas, et je me suis plantée au milieu du couloir. Je l'apercevais. Ce que j'apercevais, à vrai dire, c'était le haut de son corps qui dépassait du muret entre les grilles. Edmond s'occupait de brosser un cheval. Mon regard était entièrement accaparé par la douceur de ses gestes, les caresses de la brosse sur la robe noire du cheval qui révélait des reflets bleutés comme quand le ciel prend sur un morceau de charbon. Il a tourné la tête dans ma direction sans paraître surpris de me voir, tout en continuant à s'occuper du cheval. Je me suis sentie attirée, en droit de m'approcher du portillon de la stalle. Je ne l'ai pas ouvert. J'étais bien, pas du tout gênée comme au jardin, à croire qu'il s'était passé des choses nouvelles entre-temps. La nuit, sûrement. Il n'a pas arrêté de brosser le cheval de tout le temps qu'il me regardait, toujours avec la même application. T'aimes ça, les chevaux ? Il m'a demandé. Allez, regardez, c'est tout ce que je peux faire, mais je crois bien que je les aime, pour ce que je les connais. J'ai répondu. Il a passé une main sous le cou du cheval en se penchant légèrement. Celle-là, c'est Artemis, ma préférée. Ah, c'est une jument. T'avais pas remarqué ? Il a dit en souriant au cheval. Je me suis sentie un peu gourde. Elle est pas magnifique ? Il a dit. La moquerie avait disparu de son visage. Oui, elle est très belle, j'ai dit. Tu sais qui est Artemis ? Non, j'en sais rien du tout. La fille de Zeus, déesse de la chasse. Elle n'est pas farouche, j'ai dit pour dire quelque chose. Il a pris son air sérieux qui lui creusait des sillons supplémentaires dans le front. T'y fie pas trop quand même, elle connaît son monde. Ben, je me doute bien. Il faut prendre son temps avec les chevaux, tu sais. Je risque rien en restant là. C'est sûr, t'aimerais la caresser. Je crois pas que je fais partie de son monde, comme vous dites. Il a attrapé une corde suspendue au mur du fond. Approche, il a dit comme s'il ne m'avait pas entendu. J'ai hésité un moment. Il a fait un geste de la main pour me demander d'entrer. J'ai alors ouvert le portillon et je me suis avancé vers lui, vers eux. Il a lentement passé la corde au cou de la jument, puis tout en empoignant la corde, il a tendu son autre main pour prendre la mienne et la guider juste en haut de la jambe de la jument. Un détail que j'ai appris ce jour-là, qu'on ne parle pas de pattes pour un cheval, mais de jambes, comme pour nous autres. Caresse-la d'abord, faut qu'elle s'habitue à toi, il a dit sans lâcher ma main. Je me suis mise à caresser la jument. J'avais jamais rien touché d'aussi doux. Et en même temps, je sentais toute la puissance des muscles au repos qui demandaient rien qu'à exploser sous mes doigts. Par endroits, de grosses veines biscornues, gonflées de sang, qui semblaient chercher à fuguer au dehors. À un moment, la jument a fait un mouvement de tête vers le haut, puis vers le bas. La main d'Edmond qui tenait la corde a suivi le mouvement sans résister. Il m'a lâché. J'ai reculé d'un pas un peu craintive, mais j'ai pas retiré ma main pour autant. La jument s'est arrêtée de bouger. Je suis remise à la caresser en lui disant qu'elle était belle, qu'elle était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Je me suis de nouveau rapprochée. Je pensais qu'elle était ce que j'avais rencontré de plus libre, de plus noble aussi, même enfermée dans le kiri. À croire qu'il y avait des animaux pour atteindre cette forme de dignité, je me suis dit. J'étais toute concentrée sur les réactions de la jument, à surtout pas la brusquer. « Je crois bien qu'elle t'a adoptée », a dit Edmond. Le mot « adoptée » me semblait pas vraiment approprié à de simples caresses acceptées par un cheval. « Je crois pas qu'on en est là », j'ai dit sérieusement. « T'aimerais monter sur son dos ?» Ma main s'est arrêtée. J'ai regardé Edmond comme on regarderait ce qui brille sans comprendre d'où ça vient. Son regard a lui été paisible, rassurant. « C'est déjà bien de la caresser, » j'ai dit. « Tu m'as pas répondu. Je suis en robe. Tu auras qu'à la remonter un peu. Et puis elle me mettrait sûrement par terre. En vrai, je continue à me chercher des excuses, juste pour qu'Edmond les renverse. » Pas tant que je suis là, je la connais par cœur. J'ai pensé au maître et à la vieille. Et si quelqu'un me voit ? Personne ne peut nous voir ici à cette heure. Ce serait notre secret, il a dit en baissant la voix au fur et à mesure. Il était bien moins peureux que devant l'échelle. Un frisson m'a traversé le corps en imaginant ce secret commun qu'on aurait alors et qui nous rapprocherait un peu plus. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai approché ma bouche de l'oreille de la jument sans pouvoir l'atteindre. « J'adorerais monter sur ton dos, Artemis. Dis, tu veux bien accepter ?» La jument a cligné un œil. sûrement par réflexe, mais j'ai voulu comprendre qu'elle était d'accord. Je me suis tournée vers Edmond. Comment je fais ? C'est pas compliqué, je vais te soulever un peu et t'auras juste à balancer ta jambe droite par-dessus sa croupe. Il a dit en me montrant le geste avec son bras. Je regarde pas, il a ajouté. Elle aura pas peur, vous me le promettez ? Il a lâché la corde et s'est mis à caresser la jument pendant un moment. Puis sans dire, il m'a saisi et m'a soulevé. J'ai eu l'impression que ses mains faisaient le tour de ma taille. J'ai balancé ma jambe comme si je l'avais déjà fait avant. Et je me suis retrouvée sur le dos de la jument, le nez dans la crinière, en train de jouer des cuisses et des hanches, pour me redresser en ramenant ma robe sur mes fesses découvertes. Une fois à peu près stable, j'ai pu bouger. Mon corps bouillait d'énergie. Maintenant que mes pieds touchaient plus le sol, je me sentais libérée de quelque chose de pesant et je voyais le monde différent de ce qu'il était par terre, comme si j'avais trouvé le moyen d'échapper à celui-là pour faire partie d'un autre. Je ne pensais pas un seul instant au moment où il me faudrait redescendre.
« Serre bien les cuisses, » m'a dit Edmond. Je me suis appliquée à faire ce qu'il me demandait. Ensuite, il a attrapé la corde et l'a tirée tout doucement pour entraîner la jument autour de la stalle. Je n'en menais pas large au début, et puis j'ai vite pris de la confiance. J'étais rudement fière perchée là-haut, maintenant bien droite, comme si les muscles de la jument se prolongeaient jusque dans moi, avec ma peau qui frottait sur la sienne et ma culotte par endroits. « Tu te débrouilles rudement bien. »« Merci du compliment. »« T'y prends goût, on dirait. » Edmond m'a fait faire plusieurs fois le tour, puis il a immobilisé la jument. « Faut descendre maintenant, » il a dit à regret, parce que ça se voyait qu'il aurait bien continué à me promener, et moi j'aurais pas demandé mieux, si seulement il n'y avait pas eu les autres et mon travail au château. « D'accord, comment je dois faire ?» j'ai demandé. « Passe ta jambe droite par devant, et laisse-toi glisser, je te rattrape. » Je me suis penchée en arrière en étirant le devant de ma robe d'une main. J'ai balancé ma jambe droite par-dessus la crinière et je me suis laissée couler. Edmond m'a attrapée par les hanches et m'a fait descendre. Quand mon visage est passé tout près du sien, au ralenti, j'ai senti l'odeur du tabac et une autre que j'avais jamais sentie avant. Il m'a regardée d'un air gêné et il m'a reposée tout doucement au sol, comme s'il devait consentir à faire quelque chose qu'il n'avait pas vraiment envie de faire. S'il m'avait gardé un peu plus en l'air, j'aurais rien fait contre. « T'es toute légère, » il a dit avec une drôle de voix. « Pas plus qu'avant, » j'ai dit pour le taquiner. « Si, je crois bien. » « Comment ça serait possible ?»« On est toujours plus léger après être monté sur le dos d'un cheval, » il a dit sur un ton sérieux, vu que c'était une vérité à laquelle il avait l'air de tenir dur comme fer. Peut-être bien que vous avez raison, après tout. Et si tu arrêtais avec ces « vous » maintenant ? Je sais pas. Essaye pour voir. Alors, d'après toi, quand on est monté sur un cheval, on perdrait quelque chose en dedans qui nous rendrait moins lourd. Il a souri. Au contraire, je crois qu'on gagne en légèreté et qu'on perd surtout rien. Je comprenais pas bien où il voulait en venir. C'est un beau cadeau que tu m'as fait. Personne m'en a jamais fait un aussi beau. Tu ferais une merveilleuse cavalière. Et je finirais par plus rien peser. Non merci, j'ai dit en blaguant. En vérité, j'avais pas envie de blaguer. Le problème avec les choses qui vous font du bien, c'est que quand vous avez envie de les refaire, même et surtout quand vous savez plus être en mesure de les refaire. Edmond me fixait et il y avait toujours plein de sérieux dans ses yeux. Je me sentais entièrement enveloppée dans ce regard. J'ai machinalement penché la tête en arrière. J'ai pas eu besoin de lui expliquer pourquoi je le faisais, que c'était pas pour mettre de la distance entre nous, au contraire, mais pour mieux le voir. Le « vous » qui était devenu « tu » aussi facilement y était aussi pour beaucoup. Je pensais à rien de plus qu'à me laisser aller. Après ça, mes souvenirs s'en mêlent avec ceux de la nuit passée. Tout ce que je me rappelle, c'est que quelque chose a lâché dans mon corps. quelque chose que je sentais pas avant, que je savais même pas qui existait. Quelque chose qui était au bord de moi et aussi à l'intérieur de moi. Quelque chose qui m'avait appartenu avant et qui m'appartenait plus une fois que je l'ai eu offert à Edmond. Je ne saurais pas dire aujourd'hui ce qui est vraiment arrivé. Je ne sais même pas comment j'ai quitté l'écurie. Tout le restant de la journée, j'étais dans un drôle d'état. Ma caboche moulinait sans arrêt ce que j'avais vécu, ce que j'avais peut-être imaginé là-bas, dans l'écurie, comme si elle voulait en faire de la semence de rêve. Ma caboche, je ne pouvais pas l'empêcher de faire ce qui lui chantait. Le maître et la vieille se sont pas parlé de tout le déjeuner. J'ai senti qu'il y avait une grande tension entre eux. En début d'après-midi, ils se sont enfermés dans le bureau. J'avais tellement à faire que je suis pas allée écouter à la porte. Quand ils sont ressortis, ils avaient l'air beaucoup moins graves. À les voir faire plus tard pendant le repas du soir, j'ai imaginé que tout s'était réglé au mieux. Ensuite, comme d'habitude, la vieille est montée se coucher la première, sans souhaiter une bonne nuit à son fils. J'aurais dû trouver ça bizarre, mais j'avais encore la tête sacrément embrouillée à pas savoir ni vouloir démêler le vrai du pas vrai. Le maître est monté à son tour. J'ai fait la vaisselle et préparé pour le lendemain matin, sans que le travail me pèse, toujours à rêvasser. Puis j'ai éteint toutes les lampes et j'ai quitté la cuisine. En montant les escaliers, je savais qu'il me serait difficile de trouver le sommeil. Je voulais étirer la journée au plus que je pourrais, lutter contre la nuit pour laisser le champ libre aux idées qui me viendraient. En arrivant sur le palier, j'ai trouvé la porte entrouverte et j'ai vu une lueur qui en débordait. La vieille était revenue. Autant en finir vite, je me suis dit, plus agacée que peureuse. Je suis entrée. Elle était bien assise sur la chaise comme la première fois. Une bougie brûlait à côté d'elle en faisant sautiller des ombres sur son visage, comme la première fois. Elle a tapoté le lit pour me faire asseoir, comme la première fois. J'ai obéi, comme la première fois. Ce qui avait changé, c'était qu'elle ne me regardait pas moi, mais la porte que j'avais pas refermée. Elle la fixait même, justement pas du tout comme la première fois. Alors je me suis tournée de côté pour suivre son regard. Heureusement que j'étais assise, sinon je serais tombée de cul en découvrant la silhouette du maître. Il a refermé la porte derrière lui et s'est avancé. Une fois qu'il a été devant moi, il s'est baissé en plissant les yeux. On aurait dit qu'il voulait être certain que c'était bien moi qui étais sur le lit. La vieille a levé un bras en l'air et l'a laissé retomber sur une cuisse, comme si elle donnait le signal de départ.
Ces extraits vous engageront, nous l'espérons, à poursuivre la lecture de ce roman polyphonique. En effet, si nous vous avons fait entendre la parole de Rose et d'Edmond, s'exprime également tour à tour son père, Onésime, sa mère, Gabriel le curé, l'homme et l'enfant. C'est d'ailleurs l'un des points forts de ce roman que ses multiples points de vue, lesquels en font une sorte de conte qui atteint ainsi une dimension plus intemporelle et universelle. Frank Buis dit « se laisser guider par les personnages ». Je suis engagé, je suis à l'intérieur de l'écrire, à l'intérieur de l'écriture. Il vient de publier, en août 2020, un nouveau roman, « Buveur de vent » aux éditions Albin Michel. Cette lecture a été préparée par Guylaine et Anne. L'enregistrement et le montage ont été réalisés par Yvan. Au cours des pauses musicales, vous avez entendu des extraits de l'album Kali Sultana de Titi Robin, Sable, et retour au pays. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission